Voilà, nous allons continuer dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous progressons lentement, mais sûrement. Et donc, aujourd'hui, nous allons prendre les versets 7 à 13. Romains 7, les versets 7 à 13. Je vais lire. Il dit, que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Faisant référence à la loi de Moïse, bien sûr. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. J'ai lu ça, et le Seigneur dit une bénédiction pour ceux qui lisent la parole, mais peut-être que, surtout la première fois que vous avez lu ce passage, vous avez dit, je ne sais pas de quoi il parle, hein, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Et ne soyez pas étonnés, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Mais l'idée générale, c'est que, finalement, c'est grâce à la loi que j'ai pris conscience du péché. Hein, c'est tout d'un coup, c'est comme, peut-être ça vous est arrivé, vous aviez une habitude, et puis tout d'un coup, quelqu'un vous a dit, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est cancéreux. Et il dit, ah bon ? Et tout d'un coup, vous prenez conscience, et tout d'un coup, vous arrêtez de le faire, parce que c'était quelque chose, avant, tranquillement, vous le faisiez, et tout d'un coup, maintenant, vous vous rendez compte que c'était grave, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « c'est cancéreux ». Quelqu'un de réputable aussi. Et alors tout d'un coup, vous arrêtez, tout d'un coup, là, vous faites attention et vous maintenez une autre vie. Est-ce que ce qu'ils vous ont dit « c'est mal » Ils vous ont dit « c'est ce que tu fais, mène à la mort ». Ce n'est pas quelque chose, une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, ils vous l'ont dit « c'est pour préserver ». Et c'est bien. Et c'est un peu ça, hein, très, très rapidement. Hein, je donne un petit exemple, mais c'est ça, la loi de Moïse, la loi de c'est sûr que ça condamne, mais c'est pour notre bien. Et donc, l'apôtre Paul, bien sûr, il est là, il est conscient, parce que lui-même, il avait été juif, il avait été très pratiquant, très intégriste dans cette notion de vivre selon la loi de Moïse. Et ici, poussé par l'Esprit de Dieu, eh bien, il est conscient d'une question que certains vont poser. Il vont dire, mais comment ça se fait que la loi donnée par Dieu, eh bien, maintenant, je dois l'abandonner. Si c'était bien, si c'était bon à un moment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus bon ? Et vous avez compris, dans les passages, il nous dit, maintenant, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire, abandonnez ça, et vous allez suivre un autre mode de vie. Et alors, c'est tous ces gens qui avaient grandi, nés dans le judaïsme, ou bien ceux qui s'étaient convertis au judaïsme, ils ont dit, comment ça se fait tout d'un coup ? C'était bon, et maintenant, tout d'un coup, c'est pas bon. Et l'apôtre Paul leur dit, mais écoutez, c'est pas parce que c'est pas bon, hein. Hein, il a dit la loi, c'est vrai, la loi a été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Et donc, on ne va pas bannir des pratiques que Dieu a suggérées. Et puis en plus, c'était qu'il a donné ça sur des tablettes de pierre. Donc, si c'est marqué, comme on dit, en expression, comme on dit, c'est écrit dans le marbre, ça veut dire que ça ne bouge pas, hein, ça reste. Et bien, lui, il a écrit sur la pierre et non sur du papyrus ou dans la mémoire de certains qui devaient retenir cela, puis plus tard hein, l'ont écrit, rédigé sur papier, hein, comme certaines religions. De notre époque, hein, quand ça a été donné, quand ils prétendent que ça a été donné, eh bien, c'était jamais écrit. Hein, c'est beaucoup plus tard que ça a été rédigé. Donc, mais ici, Dieu l'a donné lui-même, et les premières tablettes, c'était écrit de son doigt même. C'est lui-même qui l'a écrit. Et puis, bon, vous lisez l'histoire, Moïse a dû refaire, et c'est lui qui a écrit, sous la dictée de Dieu, la deuxième copie, hein, qui a été gardée dans l'Arche de l'Alliance. Mais ces hommes, ils ont un problème. Ils disent, mais comment la parole de Dieu qui a été donnée, comment est-ce que maintenant on peut l'abroger? Comment est-ce qu'on peut annuler ou dire ça n'a plus d'effet et puis passer à autre chose? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas une question de parole abrogée. Hein, je vous cite ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, dans son sermon sur la montagne, au verset 17. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour, non pour abolir, mais pour accomplir. Hein? » Donc, c'était pas... Il dit « Je l'accomplis. » Quand c'est accompli, on peut passer à autre chose. Hein? Quand je finis une chose, je le réalise, après je peux passer à autre chose. Donc, il a dit « En fait, la loi a été donnée, c'est en préparation pour la croix. Lorsqu'on arrive à la croix, les choses sont accomplies, maintenant on passe à autre chose. » Hein, donc c'est pas que c'est abrogé, non, c'est accompli. Hein. Alors l'apôtre Paul écrit avec sincérité, hein, et il écrira à l'église de Philippe, hein, au chapitre 3, verset 6, il dira « J'étais irréprochable quant à la loi. Hein, » Donc lui... Il y avait une époque où il s'appelait encore Saul, hein, donc il ne connaissait pas le Seigneur, et il dit, par rapport à la loi, moi j'étais irréprochable. C'était l'idée qu'il se faisait, hein, parce qu'il s'agissait de son interprétation. Il était pharisien, il était d'une secte du judaïsme qui avait déterminé l'interprétation de tous les passages de l'Ancien Testament, et lui... Eh bien, il s'alignait directement sur cela. Il était de la secte des pharisiens, il nous dit déjà au verset 5, hein, de Philippiens 3. Mais ce que nous savons, c'est que dans le ministère de Christ, c'est que les pharisiens et Jésus, ils étaient constamment en conflit. Les problèmes, eux, lui disaient, mais tu ne respectes pas le sabbat. Il dit, mais moi, si, je le respecte dans le sens que Dieu l'a donné. Vous avez une autre interprétation. Il y avait constamment des conflits entre les pharisiens et Jésus-Christ. Jésus-Christ qui avait la pensée de Dieu, les pharisiens qui avaient leur interprétation. Donc, Paul, et certainement sincèrement, eh bien, lui était dans la plus stricte des sectes du judaïsme et il réussissait à être irréprochable quant à cette interprétation. Et donc, finalement, il y avait une autosatisfaction là. Que tout était bon. Mais le problème, c'est que c'était selon une interprétation. Hein, et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, hein, des gens sincères qui pratiquent leur foi, hein, et parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Et Dieu dit, mais oui, vous pouvez être sincère, mais c'est pas ma pensée, c'est pas ma parole. Je pense au jeune homme... riche qui était venu, en Luc chapitre 18, le jeune homme riche qui était venu voir Jésus, il a dit, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus a commencé par dire, bah, écoute, les commandements, il a cité quelques commandements, et l'homme a dit, mais moi, je pratique ces commandements-là depuis ma jeunesse. Donc il ne me manque rien. Ici, dans ce passage de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, avec tout son arrière-plan, avec toutes ses connaissances, avec l'autosatisfaction qu'il avait de ce qu'il vivait et plaisait à Dieu. Mais il nous dit au verset 7, hein, donc ce premier verset, il nous dit « Mais j'ai connu le péché par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Il dit en fait, il y a un commandement, le dixième, hein, c'est le dixième qui dit « Tu ne convoiteras point ». Il dit « Le dixième, il m'a achevé ». Il dit « Tous les autres, je pouvais les garder. Tous les autres, je gardais à la lettre. » Mais il dit « Mais quand je me suis arrêté sur le dixième, j'ai commencé à méditer, celui-là m'a achevé ». Et donc ce matin, nous voulons un peu méditer sur ce commandement « Tu ne convoiteras point ». Parce que l'apôtre Paul dit « Mais c'est là, moi, qui étais, par rapport à l'interprétation des hommes, et pas d'une religion n'importe, mais celle que Dieu avait révélée, j'étais irréprochable. » Mais il a dit « Mais quand je suis arrivé au dixième, ah, ça a coincé ». La réalité, c'est que très peu de gens pensent à ce dixième commandement, « Tu ne convoiteras point ». Bon, beaucoup l'ont entendu, hein, on l'a dit, « Tu ne convoiteras point ». Mais on ne s'est pas trop arrêté pour savoir ce que ça voulait dire, et ni jusqu'à où ça pouvait porter. L'une des particularités de ce commandement, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Hein. Il y avait un jugement pour l'adultère, il y avait une manière de traiter le vol, il y avait une manière de traiter le faux témoignage. Mais pour la convoitise, eh bien, il n'y avait aucun jugement. Dieu n'a pas dit tu feras ceci, tu feras cela à celui qui convoitera. Pourquoi ? Pas parce que convoiter, c'est quelque chose qui est interne. Il n'y a aucun moyen de constater. Hein, moi, vous ne pouvez pas venir dire « Steve, je sais que tu as convoité. Je t'ai vu. » Vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas trouver de témoin. Hein, vous ne pouvez pas prouver en justice que quelqu'un a convoité. Parce qu'il dit « Mais non, j'ai regardé seulement. » Il n'y a que moi qui sache ce qu'il y avait dans mon cœur quand j'ai regardé. Hein. Et donc, Dieu n'a pas donné à l'homme cette possibilité de juger la convoitise. Hein, parce que c'est interne, c'est dans le cœur, et il n'y a que Dieu qui voit ce qu'il y a dans le cœur. Mais il n'y a que moi aussi qui sache un peu ce qui se passe dans mes pensées. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui convoite et qui ne s'arrête pas là, finit par commettre un péché. Hein, vous vous rappelez, Jésus, il a dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite, il a déjà commis adultère. Ça mène, si tu convoites et tu ne t'arrêtes pas, c'est-à-dire tu es là et tu n'arrêtes pas la chose, tout de suite, eh bien, ça mène vers quelque chose, un péché, et vers la violation d'un commandement. On a plusieurs exemples dans l'Écriture. On va pas lire le passage, mais 1 Roi chapitre 21, par exemple, si vous êtes en train de prendre des notes. 1 Roi chapitre 21, il y a Akab, le roi Akab, qui est là dans son palais. Il regarde dehors, il voit une vigne, il dit « Ah, cette vigne, ça, elle me plairait. J'aimerais bien avoir cette vigne, parce que je veux mettre des épices, et des petites choses, je veux faire mon petit jardin juste sous ma fenêtre. » Et alors il apprend que ça appartient à Naboth, il va voir Naboth, il lui dit « Naboth, écoute, j'aimerais bien avoir ta vigne là, ou je te donne un autre champ semblable, équivalent, ou je te l'achète, qu'est-ce que tu veux ?» Et Naboth répond et dit « Mais non, mais ça c'est l'héritage que j'ai reçu de mes ancêtres et tout ça, je veux le garder. » Et alors le roi Akab, pas seulement qu'il est déçu, mais il rentre dans la maison et il va sur le canapé et il boude. Il se tourne vers le mur et puis il boude. Je disais quelqu'un, il dit « Quand un mari se comporte de cette manière-là, c'est qu'il veut l'attention de sa femme. » Et elle est venue, Jézabel est arrivée, et elle dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Je voulais le champ, j'ai parlé à Naboth, et puis il ne veut pas me le vendre. » Et il boude. Elle dit « Ah, toi, c'est qui le roi ?»« Non mais, dis, je m'en occupe. » Et elle s'en est occupée. Le résultat, c'est que on a à porter des fausses accusations, donc qui est l'un des commandements, hein, tu ne porteras point de faux témoignage. Deuxièmement, on l'a tué. Et troisièmement, Acab a pris le terrain pour lui. Il a volé le terrain de quelqu'un d'autre. Vous savez, le fait de convoiter, il a commencé à regarder, ça a commencé à travailler, il imaginait tout ce qu'il allait faire là-dedans. C'était même pas à lui. Il est en train d'imaginer, de travailler, de voir tout ce qu'il pourrait. Et ça a amené à enfreindre trois commandements. Vous connaissez peut-être mieux l'histoire de Bathsheba, David et Bathsheba. Et il l'a vu, et au lieu de se détourner et dire « Oh !» Puis il est resté à convoiter. Et puis ça a travaillé chez lui, jusqu'à ce qu'il la désire. Le désir est devenu irrésistible. Il a commis l'adultère. Après, pour couvrir l'adultère, eh bien, il a dû... exposer le mari Uri, l'exposer à l'ennemi pour qu'il soit tué, et puis ensuite il a pris la femme d'un autre pour en faire sa femme. Combien, hein, parce que la convoitise n'a pas été arrêtée, elle est devenue, le regard est devenu convoitise, et bien ça a mené à la désobéissance à d'autres commandements. Et donc le commandement est le commandement complet, hein, là, c'est tu ne convoiteras point, mais finalement quand je lis dans Exode chapitre 20 verset 17, il nous dit tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Bon, s'il fallait faire une traduction moderne, hein, donc parler pas de son serviteur, mais parler de son tracteur, vous parlez de son bœuf, vous parlez de sa voiture, vous parlez de sa maison. Il dit, mais le fait de désirer, de regarder, de désirer, voir quelque chose, de le désirer, je le veux pour moi. Je le veux. Puisque je le veux, eh bien, je fais tout pour l'avoir. Et là, ça peut traîner, ça peut amener, on commence à dire des choses, on commence à parler, hein, ça peut, parfois on veut la position de quelqu'un, et donc parce qu'on veut son poste, alors on commence à parler en mal de la personne, on commence à faire, essayer de trouver des choses, il suffit d'écouter les élections de nos jours. Hein. Quand il veut gagner, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on ressort tout le linge sale de l'autre, hein, surtout aux États-Unis. Mais c'est... Vous savez, quand on convoite, on est capable de n'importe quoi. Et l'apôtre Paul, il a dit, tous les autres, j'ai réussi. Mais la convoitise, j'ai eu du mal. La première fois qu'on voit une convoitise qui mène à un problème, en fait, c'est dans Genèse chapitre 3, hein, quand, lorsque Ève... et là devant l'arbre et le serpent lui tourne les regards vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le mot convoiter est là, en français il n'est pas là, mais c'est le mot précieux, c'est traduit précieux, hein. Donc Genèse chapitre 3 et je vais lire le passage rien que pour rappeler comment ça se passe. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, c'est le serpent, Satan s'est déguisé en serpent, s'est présenté sous la forme du serpent. Hein, donc, et c'est parce que le serpent était rusé qu'il a pu tromper Ève. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Donc, vous savez ce que Dieu dit, quand Dieu donne un ordre aux hommes, Satan, il entend. Hein. Il sait, il connaît la parole de Dieu. Deux, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et ça, c'est resté dans la tête d'Ève. vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et alors, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, ce qui était vrai. Ensuite, il dit, agréable à la vue, certainement, c'était un bel arbre. Et qu'il était précieux, c'est-à-dire désirable, hein, convoitable, pour ouvrir l'intelligence. Vous savez, ce qui a le tort de la femme, c'était pas tellement le symbole, le geste, c'était prendre le fruit. Mais en fait, la vraie motivation, c'est de vouloir être comme Dieu. Hein, il y a des gens qui me disent, prendre une pomme, c'était pas une pomme, mais prendre une pomme et manger une pomme, Dieu, il fait un karma, c'est terrible ça. La question, c'était pas le fait de prendre le fruit, c'était le fait que dans sa tête, elle se disait, je veux être comme Dieu. Déjà, Satan, elle a été un ange, il a voulu être comme Dieu, et ça lui a attiré des ennuis, et il a été rejeté du ciel, et là, maintenant, elle est attirée par ça, je veux être comme Dieu. Oh, de nos jours, il y a Ève, hein, elle n'est pas la seule, hein, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être leur propre Dieu. En disant, par exemple, c'est une expression, bon, on l'entend moins maintenant, hein, ni Dieu ni maître, ça veut dire c'est moi. C'est moi le maître. Et vouloir être, c'est moi qui décide ma vie, c'est moi qui fais ce que je veux. Si je veux me défaire d'un être en moi, je peux le faire, je décide de tout, c'est moi qui décide. Et ça commence à... c'est ce même esprit, et c'est ça qu'il dit. Et vous savez, et Ève a désiré, elle a dit, ah, je peux être comme Dieu. J'aurai la connaissance du bien et du mal. Il faut plus que ça pour être Dieu. Hein. Mais c'est ça que elle a entendu Satan dire quelque chose. Elle l'a cru, au lieu de croire à ce que Dieu a dit. Elle a cru à ce que disait un être intelligent, le serpent. De nos jours aussi, on est pas mal influencé par des gens qui nous paraissent intelligents. Et nous croyons des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Hein, c'est le problème, il n'est pas parti, il est toujours là. Hein, donc, je ne vais pas jeter de pierre à Ève, parce que j'ai commis sa faute plusieurs fois. Elle a convoité l'égalité avec Dieu. Tandis que dans Philippiens chapitre 2, il nous dit que Dieu, Jésus, n'a pas voulu garder à tout prix son égalité avec Dieu, mais il a mis de côté... Il s'est vidé, le mot c'est ça, hein, littéralement, il est dit, il s'est vidé de tout pour devenir homme. Ève, croyant devenir comme Dieu, elle fait une gaffe qui ne la rend pas comme Dieu. Hein, la preuve, regardez notre monde, hein, c'est pas très divin, hein, ce qu'on voit. Et Jésus, lui, il a mis de côté le fait d'être comme Dieu, il est devenu homme afin de mourir sur la croix, à notre place. Il a été compté parmi les pécheurs, et parmi le moindre, le rejeté de tous. Il n'y avait que sa mère et quelques femmes qui étaient là avec lui. Mais il l'a fait pour nous. Vous savez, il y a une grande différence d'attitude. Quand la convoitise, elle produit un certain comportement. L'amour produit un autre comportement. Jésus était motivé par l'amour. Ève était motivée par un désir, une convoitise. Je veux être comme Dieu. Il paraît que je peux l'être. Rappelez Jésus dans Jean chapitre 11, Jésus a parlé à Pierre. Et ce que nous retenons surtout, c'est « Pierre, m'aimes-tu ?» En fait, il a dit plus que ça. Il n'a pas dit seulement « Pierre, m'aimes-tu ?» Mais il dit à Pierre, il dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Parce que vous vous souvenez, hein, c'était dans Marc 14, versets 36 à 31, que Pierre avait dit, il dit, Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, même si moi, hein, moi je suis meilleur que eux, moi je t'aime plus que eux, moi je serai fidèle plus que eux. Et il s'était élevé au-dessus de tous les autres. Et alors après, Jésus, même quand Pierre disait ça, il te dit, écoute, demain matin, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Et justement, c'est arrivé quand Pierre s'est trouvé entre le choix entre c'est ou lui ou Jésus. Et il a pensé à sa peau, lui. Il dit, non, je ne connais pas. Et il avait renié, et puis qu'après, il a entendu chanter le coq, et puis il s'est souvenu des paroles de Jésus, et c'est là où il est parti, il a pleuré amèrement, et il s'est rendu compte qu'il avait trahi. Et, bon, il a vraiment pleuré, il a vraiment regretté, et le Seigneur l'a tout pardonné. Hein, c'est à la résurrection, Jésus est allé, il s'est révélé à lui, seul. Hein, et on ne sait pas ce qu'ils ont discuté. Mais c'est que plus tard, dans la chambre haute, quand Pierre était là, eh ben Jésus n'a rien dit à Pierre. Donc les choses avaient été réglées. Petite parenthèse, quand on a des choses à régler, on les règle tout seul, et après on n'en parle plus. Et on n'en parle pas à tout le monde. Hein? C'est la pratique de Jésus. Et donc, Jésus vient voir Pierre après la résurrection. Pierre, il avait été à la pêche avec les autres, et puis il n'a rien pris. Et Jésus vient voir Pierre, il dit Pierre. Et lui dit Pierre, et voilà, et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là, hein, ces autres disciples-là, ne m'aiment? Est-ce que tu m'aimes plus que eux? Et sinon, non. Celui qui avant se vantait de pouvoir d'aimer plus que, là il dit je le dis plus. Il y a eu un changement de cœur. Maintenant il y a une autre humilité. Avant il convoitait un poste. Hein, les disciples se disputaient, même Jean et Jacques ils se disputaient un à droite un à gauche. Hein, même maman est venue un peu intercéder pour eux. Ils avaient des drôles. Là ça change tout. La convoitise, elle pourrit la situation. Mais l'amour, l'humilité et l'attachement à Jésus, ça change tout. C'est notre attitude. Et l'apôtre Paul, c'est bien sûr, et Pierre, après Pentecôte, hein, lui qui avait renié le Seigneur quand il s'agissait de sa peau, la peau de Jésus, et il a sauvé sa peau à lui. Eh bien, après Pentecôte, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, eh bien, je suis avec lui. Hein, et là, c'était un homme transformé. Parce qu'il ne convoitait plus un poste ou une position dans l'équipe de Jésus ou dans le royaume de Jésus. Pour l'instant, maintenant, il n'a qu'une seule ambition, c'est de servir celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et ça change tout. Vous savez, un gros problème, j'avais intitulé cette étude aujourd'hui, c'était le péché de l'apôtre Paul. Et c'est lui qui, dans un sens, c'est lui qui le décrit dans ce chapitre. Et le grand problème chez l'apôtre Paul, c'est qu'il avait été irréprochable quant à la loi, mais pour les mauvaises raisons. Il avait des intérêts personnels. Ces pharisiens aimaient le prestige d'être pharisiens. Hein, c'est des gens qui priaient au coin de rue, quand il y avait tout le monde pour les voir. C'était des gens qui insistaient d'avoir les premiers rangs dans la synagogue. C'est ceux qui insistaient d'être les honorés, les personnes honorées, les guests, les invités honorés aux fêtes. C'était, il y avait une raison. Et pour être un bon pour avoir cet honneur, pour avoir cela, ben, il fallait être irréprochable. Et donc l'apôtre Paul, eh bien, était irréprochable, mais pour les mauvaises raisons. Et tout à l'heure, j'ai parlé, en Luc chapitre 18, j'ai parlé de l'homme riche qui était venu voir Jésus. Et il avait dit, j'ai gardé tous les commandements. Mais vous savez ce que Jésus lui avait dit? Il lui avait dit, écoute, mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Ah oui, par rapport à la loi, tu es irréprochable. Mais il te manque une chose. C'est quoi? Ben, Jésus lui dit, écoute, tu t'es bien, ben tu distribues ça aux pauvres, tu distribues tous tes biens, et puis tu viens, me suis. C'était une chose étrange, hein, c'est parce que Jésus n'a jamais demandé ça à quelqu'un d'autre. Hein. Si les gens l'ont fait, hein, Lévi ou Matthieu, hein, lui, il a tout quitté, Pierre a tout quitté, mais ce n'est pas Jésus qui leur a dit de tout quitter. Mais cet homme-là, il lui dit... Si Jésus l'a dit, c'est pas le fait, parce que Jésus ne disait pas que le bien que tu as était mal acquis ou que tu avais une mauvaise gestion. Non, il reprochait rien, hein, c'est pas un péché d'être riche et d'avoir des biens. Mais ce que Jésus voulait mettre en valeur, il dit, mais c'est l'attachement à cela. Il dit, est-ce que tu es capable de tout laisser pour me suivre? Est-ce que tu es capable de laisser tout cela pour me suivre? Ou est-ce que cette position de riche, de respectable, d'honoré dans la société, ça te plaît et tu veux la garder? Parce que si tu viens me suivre, hein, on compte pour rien du tout, hein, on compte pas grand-chose. On est des méprisés dans le monde. Et la question, Jésus n'a pas demandé, est-ce que tu as gardé le 10e commandement? Parce que justement, c'était là le problème. Il convoitait une position dans la société, il désirait quelque chose, et ses biens lui permettaient de l'avoir. Bon, c'est une injustice dans le monde, c'est sûr. C'est pas juste que celui qui, parce qu'il a du bien et parce qu'il est riche, il a une position. C'est pas juste, mais bon, c'est notre monde, hein, on le connaît, ça n'a pas changé. Mais c'est de vouloir l'aider. Et vous savez, ça arrive même dans le milieu évangélique. On peut avoir de la convoitise. Hein. Même des gens qui disent « j'aime Dieu, j'aime Jésus, je veux vivre pour Jésus », ils me le disent. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'aiment? Est-ce que c'est à des fins personnelles? Hein. Vous savez, pourquoi est-ce que l'évangile de prospérité a un tel succès? On dit « tu viens à Jésus et tu auras... » une belle voiture, tu auras une maison, tu auras une épouse, une jolie épouse, tu auras tout. C'est prêché, et vous prêchez cet évangile-là, il y a plein de monde qui vous suit. Hein, les plus grandes églises, même en France, les plus grandes églises, ce sont des églises qui prêchent l'évangile de prospérité. Tu aimes Jésus, tu suis Jésus, tu seras... Mais pourquoi tu le suis? Parce que tu veux être riche? Parce que tu veux avoir du confort? C'est pour ça que tu l'aimes? Il y en a d'autres qui déclarent aimer Dieu parce qu'ils convoitent le respect et le pouvoir qu'a le clergé. Hein, les gens de la religion, ils sont bien vus, ils sont respectés, tout ça. Moi, j'aimerais bien... Et il y en a d'autres qui sont attirés par des mouvements chrétiens qui ne dérangent pas leur mode de vie. C'est-à-dire, je peux être un bon chrétien et en même temps, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Ça plaît aussi. Et donc, si je peux faire tout ce que j'aime, je peux faire tout ce que je veux, et puis en même temps dire que j'aime Jésus, ah bon, alors j'aime bien cette église-là. Vous savez, c'est de la convoitise, parce que je ne veux pas choisir entre ces choses-là et Jésus. Ces choses m'attirent, je les désire, la manière dont les gens me voient, tout ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et s'il faut choisir entre Jésus et ça, alors bah, tant pis Jésus. Hein. Et c'est là le problème, la convoitise. Quand je convoite quelque chose, et à tel point que je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas le laisser partir. Quand il s'arrive, et je suis comme Pierre, et on ne va pas jeter des pierres sur Pierre, parce qu'il y en a plein d'autres qui depuis, bah, quand il s'agit de Jésus ou moi, eh ben, alors c'est moi. Et C'est pour ça que parfois, on voit dans la persécution a toujours purifié l'Église. Parce que ceux qui sont restés attachés à l'Église, eh bien, c'est ceux qui étaient prêts à tout perdre pour rester attachés à Jésus. Hein, et donc, la persécution a toujours, dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été un moyen de purifier l'Église. Ça fait du ménage. Hein. Est-ce que j'aime Jésus pour qui il est ou pour ce que je peux obtenir de lui? Après tout, hein, il ne demande pas l'impossible. Pourquoi est-ce que j'aime ma mère? Parce que aimer ma mère, ça me rend riche. Pourquoi est-ce que j'aime mon frère, ma soeur, ma famille? Pourquoi est-ce que je les aime? Parce que c'est avec eux, tout va bien, on est toujours content, ça se passe toujours bien. Non, je les aime parce que c'est ma mère et je les aime parce que c'est mon frère, c'est tout. C'est pas parce que ce qu'ils m'apportent ou ce qu'ils peuvent m'apporter ou ce que j'ai grâce à eux. C'est mon père, c'est ma mère, je les aime parce que c'est... Et alors, pourquoi pas faire ça avec Jésus-Christ? Je l'aime pour qui il est, pas pour ce qu'il peut me donner. C'est-à-dire, mon amour pour lui doit être tel que même s'il ne m'apporte rien, je l'aime quand même. Parce qu'il est mort pour moi. Il s'est donné sur la croix pour moi. Je l'aime quand même et je ne vais pas le renier. Hein, on ne veut pas être comme le Simon-Pierre d'avant Pentecôte. On veut être comme l'apôtre Pierre d'après Pentecôte, dit « Moi, c'est Jésus ». Et alors, dans le chapitre 4, quand les pharisiens, ces mêmes pharisiens qui avaient réussi à mettre une pression sur Pierre et l'obliger à renier le Seigneur avant, eh bien là, ils sont en train de mettre la pression. Il dit « Écoute, il ne faut plus parler de ce nom-là ». Et Pierre, il dit « Eh, doit-on obéir à Dieu ou aux hommes ?» Bon, c'est le genre de réponse qui est vraiment super, parce qu'eux, ils ne peuvent pas dire, c'est des gens religieux, ils ne peuvent pas dire, il faut écouter aux hommes et pas à Dieu. Mais en même temps, ils savent que s'ils disent oui, il faut écouter à Dieu, mais pour lui, écouter à Dieu, c'est parler de Jésus. Alors, Pierre, il avait la réponse qui a arrêté toutes les discussions. Mais il a dit, moi, je suis père, vous faites ce que vous voulez avec moi, il n'y a pas de problème, mais moi, Jésus, je le garde. C'était plus la même chose. Vous savez, quand la convoitise est enlevée de notre cœur, il n'y a plus de cette convoitise, eh bien, le monde, il n'y a plus de pouvoir sur moi. Et je peux rester attaché. Mais tant que je convoite, j'ai des choses que j'aime et auxquelles je suis attaché, alors là, ça me freine, ça m'empêche de m'approcher de Dieu, de Jésus. Et l'apôtre Paul, il dit, tous les autres commandements, tous les neuf, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, il m'a tué, hein, pour employer une expression courante. Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui m'empêche de me donner pleinement à Jésus? Est-ce qu'il y a une convoitise? Il y a quelque chose que je veux faire, que j'aimerais faire? Je me rappelle une époque, pourtant j'étais assez jeune, mais déjà je savais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, je savais que tout ça était vrai, je croyais que la Bible était vraie, il n'y avait pas de problème. Mais dans mon cœur, j'avais le désir de vouloir faire, j'ai dit, mais je voudrais faire des choses dans le monde. Et après, je viens à Dieu. D'abord un peu goûter, un peu m'amuser un petit peu, puis après je viens. Hein, je ne suis pas le premier, et je ne suis pas fier de la chose, mais... Je vous ai raconté, hein, comme quoi il y avait mon frère, il a mis le feu dans la maison et dans le lit des parents, et puis ça m'a fait des cauchemars. Et puis je me suis rendu compte et j'ai dit non, laisse tomber toutes ces choses que j'aurais envie de goûter, et je suis le Seigneur. Vous savez, je n'ai pas regretté. Hein, ça fait 50, plus de 50 ans, hein, et je n'ai pas regretté. Mais c'était une décision à faire. Je vous raconte une petite histoire, hein, parce que c'est une lutte, hein, pour croire que parce qu'on est avec ces gens, je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais à l'Institut biblique, donc je suis là en train de me former pour servir le Seigneur. Moi, j'avais pas, mes parents, ils n'avaient pas des sous pour me payer les études, hein, ça se paye, la formation biblique. Et je n'avais pas les sous, donc il fallait travailler, faire les études et en même temps travailler à côté. Et puis, si vous connaissez l'Amérique, ben, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller au travail. Et si on n'a pas de travail, on ne peut pas payer la voiture et on ne peut pas payer les études. Hein. C'est un truc, ça marche comme ça. J'avais réussi à accumuler un peu d'argent. Quelqu'un m'a donné une affaire. J'avais une petite voiture. Bon, elle était belle, elle n'était pas rouillée. Elle était, bon, elle n'était pas neuve, elle n'était pas récente, mais elle était en très bon état. Ça roulait bien. Bon, j'étais content de ma petite voiture. J'allais au travail, je revenais, je pouvais payer, tout se passait bien. Et tout d'un coup, le moteur, il a cassé. Je dis, ah, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Hein, vous savez comment on est. Hein, tout de suite, c'est sa faute à lui. Seigneur, je suis là, je suis en train de me former, c'est pour te servir, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Je ne suis pas en train de faire des études qui vont me rendre riche, c'est pour toi. Et j'ai besoin de ça pour aller au travail. Et si je ne travaille pas, je n'ai pas l'argent pour payer les études, je ne peux pas faire les études. Tu comprends, Seigneur? Je lui ai demandé de faire un miracle, il n'a pas fait. Je lui ai demandé de avec quelqu'un qui ben, rien du tout, pas question. Il était sourd. Il sait être sourd. Hein, comme les papas aiment savoir être sourd parfois. Hein. J'ai jeûné. J'ai fait tous les trucs qu'on connaît. Rien. Rien à bouger. Bon, j'ai dit, écoute, Seigneur, j'admets, j'étais un peu attaché à la voiture. Elle me plaisait, c'était à ma première. Vous savez, c'est un peu normal, vous dites. Mais j'étais un peu attaché à la voiture. Il m'a dit, tu t'en débarrasses. Seigneur, et puis avec quoi? Je m'en débarrasse. Ouais, bah, je peux oui, la jeter, mais après, il me faut toujours une voiture. J'ai été chez un concessionnaire, j'ai dit, qu'est-ce que vous pouvez me donner? J'ai 100 dollars et j'ai cette voiture. Il a dit, bon, les pneus, ils sont en bon état. La voiture, elle est ancienne. Il dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est venu, qui a échangé de voiture, qui m'a amené une vieille voiture, là. Il dit, on n'a pas touché, on n'a rien mis dedans, et on l'a donné en échange, ça tourne, ça démarre. Un peu rouillé, un peu... Si. Mais elle est là, si vous voulez, ça vous intéresse, on peut vous faire une affaire, et puis vous nous ajoutez encore 100 dollars quand vous aurez votre paye, et puis ça ira. Eh bien, je suis parti de là avec cette vieille voiture, pas belle, ben. Et j'ai pu finir l'information biblique. Après, elle a servi pendant toute la tournée parmi les églises. Et puis le jour où on a quitté la France, les États-Unis pour le champ missionnaire, elle a cassé. Mais bon, vous savez la leçon. C'était pas, ça n'a rien à faire avec la marque. Ne me demandez pas la marque de la voiture. Ça n'avait rien à faire avec. C'était le truc, c'est que le Seigneur voulait travailler dans mon cœur. Il me dit, écoute, il y a un truc tu ne dois pas faire, c'est de convoiter quelque chose et de t'y attacher. Il dit ça, tu as besoin, plus que la théologie, tu as besoin d'apprendre ça. Et il m'a travaillé avec ça. Et vous savez, je peux vous le raconter comme si c'était hier. Ça m'a marqué, c'est resté. Et même encore aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que ma voiture, elle est un peu sale, que ce n'est pas toujours nettoyé, parce que j'ai pris une leçon là, mais quelque chose de bien. Parce que là, celle-là, elle n'était jamais sale, c'était toujours propre, je l'essuyais tous les soirs. Ben là, j'ai pris quelque chose. Maintenant, les voitures, ça ne fait rien. Si ça roule, c'est bon. Ça y est, maintenant, vous savez tout. Mais le truc, c'est, la leçon, c'est convoiter, désirer. Et le Seigneur dit, tant qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher, ah non, je ne vais pas aller là ce soir parce que ça va salir la voiture. Oh, bah alors change de voiture. C'est comme ça que le Seigneur répond à la question. Il dit, tu vois, si tu reçois du monde à la maison, ils vont t'abîmer les meubles, le canapé, tout ça. Et écoutez, nous en tant que couple, la question, c'est pas le canapé qui va empêcher de recevoir du monde. Le canapé, ben, il déchire, on trouve un autre. À Emmaüs, ils en ont plein. Vous savez, La question, c'est la convoitise. L'apôtre Paul dit, quand j'ai compris le mot « tu ne convoiteras pas », il a dit, ça m'a tué. Il a dit, je me suis plus senti irréprochable. Et c'est là où, lorsque je reconnais cela, eh bien, c'est le début. Hein, c'est le début de la délivrance, c'est le début d'une autre vie. Dans Colossiens 3, 5, l'apôtre Paul écrit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Oui, il fait la liste, on dit « D'accord. » Après, il dit « La cupidité, qui est une forme de convoitise, c'est une partie de la convoitise. Hein. » Il dit « La cupidité, qui est une idolatrie. » C'est ce que dit, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Hein. Et avoir une idole, c'est avoir quelque chose qui se met entre moi et Dieu. Il dit la cupidité, qui est une forme de convoitise, c'est quelque chose, c'est une idolâtrie. L'idolâtrie, vous connaissez, ça nous ramène au premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, vous savez, il dit, si tu as un problème de convoitise, que tu es attaché à certaines choses plus que Jésus, eh bien déjà, tu as le premier commandement, parce que c'est une idolatrie, tu as le premier commandement qui est de travers. Après, tu vas commencer, et ça entraîne pas mal de choses, hein, et ça peut aller très loin. Il vaut mieux s'arrêter, dire Seigneur, je t'aime plus que tout. C'est toi, plus que tout. Et il y avait un jeune homme qui voulait servir le Seigneur. Et puis il a vu une jeune femme qui voulait servir le Seigneur. Et il lui a écrit une lettre pour lui demander en mariage. Et il lui a dit, j'aime d'abord le Seigneur, deuxièmement le ministère, et toi en troisième, est-ce que tu acceptes ? Bien, hein ? Elle a répondu, j'aime le Seigneur en premier, le service de Dieu en deuxième, et toi en troisième. Est-ce que tu acceptes ? Bon, ils se sont mariés, hein, ils ont servi le Seigneur. Le truc, c'est qu'ils ont mis des valeurs. Ils ont décidé, hein, les choses à l'avance. Ils ont décidé ensemble. Je ne dirais pas, je ne vous recommande pas de faire vos propositions de cette manière-là, hein, les jeunes filles. Mais, comprenez le principe. C'est le fait de déjà, à l'avance, j'ai déjà décidé qui a la première place. L'apôtre Paul dira, en Romains chapitre 13, il dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il dit, ce n'est pas les convoitises qui doivent dominer votre vie, c'est le Seigneur. Après, c'est à chacun d'entre nous. Hein, c'est pour ça que la convoitise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juger, hein, parce qu'il n'y a que moi qui sais. Hein, il n'y a que moi, même ma femme ne sait pas. Hein, il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dans mon cœur, et ce que je pense, et ce que je pense quand je vois, et quand je regarde des magazines, quand je regarde la télé, quand je me promène, quand je... Il n'y a que moi et le Seigneur qui sache ce qui passe par la tête. Maintenant, si ça passe, si ça continue, c'est très bon. Hein. Comme disait, je crois que c'est Luther qui a dit, « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire des nids dans mes cheveux. Hein. » Donc, il y a des choses qui passent, des idées, des pensées qui peuvent passer, mais je laisse partir et puis je me détourne. Hein, si David avait fait ça, ça aurait été autrement. Ou bien je convoite et je dis, comment est-ce que je pourrais avoir ça ? Ah, j'aimerais vraiment ça. Et alors après là, j'ouvre la porte à toutes sortes de choses. Eh bien, pour se préserver, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ce dont vous avez besoin, il vous le donnera. La loi est mauvaise ? Non. Elle m'ouvre les yeux pour que je voie la vraie situation. Et là, Après, je peux, une fois que je vois vraiment, hein, je mets le jour, le frère tout à l'heure dans sa prière, il parlait du lever du jour, mais quand le soleil commence à briller, hein, vous avez déjà été dans les greniers, et puis après vous vous éclairez, oh, c'est autre chose. Et bien, que la lumière se lève dans le grenier de ma vie, hein, dans les placards, il y a des placards cachés. Certains ont des cadavres dans leur placard et toutes sortes de choses. Il dit, quand tu commences à laisser ça tout, ça, le Seigneur ouvrir tout ça, il dit, Seigneur, écoute, il n'y a que toi qui comptes tout ça, je laisse partir. Même ma femme ne sait pas, mais bon, mais c'est devant toi, je confesse tout. Je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Je veux ce que tu as. Lui, il a déjà dit, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit, moi, je veux que vous soyez mes amis. Je veux cette relation avec vous. Maintenant, est-ce que vous la voulez avec moi? Le péché de Paul, eh bien, il a dit, je suis irréprochable selon l'interprétation que nous avons faite de la loi. Mais vous savez, il a dit, la convoitise, on l'a pas domptée. Et le résultat, c'est que l'apôtre Paul dira à Timothée, il dit, j'ai été un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il dit, oui, mon interprétation me permettait, et j'arrivais à justifier le fait que je blasphémais le Seigneur, que je persécutais l'Église du Seigneur, et que j'étais violent avec ceux qui appartenaient au Seigneur. Il dit, je pouvais le justifier. Quand on arrive au point où on peut justifier le mal au nom de notre foi, vous savez qu'on est, c'est tout faux. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ayons sa pensée. Et que lui soit premier. Et que c'est lui que je consulte avant toute chose. Et c'est là où j'aurai une autre vie. Je crois que on a compris ce qu'on essaie de dire là, et je vais m'arrêter et puis donner quelques minutes à chacun de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as touché du doigt là sur ce truc là, juste ce domaine de ma vie. Ouais, c'est vrai que j'ai gardé ça, c'est un truc, un jardin secret dans ma vie. Faut que je règle ça, parce que faut que je sois Seigneur de toute ma vie. Et que le Seigneur nous aide, et puis après quoi je vais prier.